CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Madame, monsieur, bonjour. Rémi Thoreau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Le Tarn-et-Garonne d'antan. Voilà le titre d'un très beau livre signé Olivier Miquel avec des iconographies de Michel Mizrahi. Quelques 300 cartes postales anciennes qui nous font voyager dans le Tarn-et-Garonne du début du siècle précédent. Olivier Miquel est notre invité aujourd'hui dans le MAG de CFM Montauban. Olivier Miquel, bonjour.
Bonjour Rémi.
Merci d'être là. On avait déjà présenté sur cette antenne des ouvrages auxquels vous avez participé, mais c'était pas avec vous que j'avais fait ces émissions, c'était avec par exemple Monsieur Ploquin.
Oui.
Pour un ouvrage sur de la marqueterie, de,
oui,
je cite de
Revel.
Mémoire, à Revel,
ah,
oui,
ben,
voilà.
Oui.
Il y avait aussi Montauban la secrète,
oui.
Je crois.
Oui, oui.
Voilà, vous participez à de nombreux ouvrages comme ça qui parlent de notre belle région et de nos beaux départements.
Oui,
ouais.
Oui, parce qu'on croit, ça, je vais pouvoir rectifier une erreur courante, c'est qu'on croit que je suis un ancien Montalbanais, alors que je suis un Montalbanais qui vit alternativement à Paris, mais je vis aussi à Montauban, donc je ne viens pas juste là en villégiature, où je ne suis pas que de passage, j'habite Montauban.
Bon, vous écrivez beaucoup, hein. Vous écrivez des romans, vous avez écrit une biographie d'Henri Salvador, vous avez écrit sur Napoléon, vous avez écrit votre dernier roman, on en reparlera une autre fois, mais s'appelle « Dans l'ombre ensevelie » aux éditions Ramsay, il est paru là en 2023. Vous avez fait longtemps de la politique, vous avez été la plume de nombreux parlementaires et ministres.
Oui, oui, oui.
Donc aujourd'hui, vous vous consacrez à l'écriture, l'écriture au sens très très large, hein,
oui.
Ça va du roman, à la biographie, je viens de le dire, mais aussi pièces de théâtre, de la chanson même peut-être.
De la chanson, enfin j'effleure un peu.
Ouais.
C'est moins. Pour l'instant, je suis un peu, je démarre, mais on m'a commandé des textes. C'est très difficile, la chanson. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, et quand on n'est pas dans le milieu, ce qui est la même chose d'ailleurs dans le théâtre, j'ai un projet qui est en train de se mettre sur pied, je crois, j'espère. Mais c'est pas évident du tout.
Mais techniquement, c'est plus amusant, moins amusant, le fait de devoir condenser comme ça en 2 minutes, 30,
alors,
3 minutes.
Moi, tout m'amuse.
D'histoire.
J'ai la chance, si j'en ai une, c'est que j'ai des facilités pour versifier. Là, vraiment, pour moi, ça me vient tout à fait naturellement. Et plus on me donne de contraintes dans l'écriture, plus la solution jaillit vite, puisque les contraintes, par définition, vous bride la liberté, et donc pour moi c'est plutôt plus facile. Donc ce qui peut paraître plus compliqué aux autres est plus facile pour moi. Je suis un flemmard qui travaille beaucoup, et par contre comme ça m'amuse énormément, et que maintenant j'ai une technique relativement acquise, je me pose plus une question de style d'écriture, ça vient tout seul et à mon service, si je puis dire, au service des idées qui me traversent l'esprit.
Alors aujourd'hui, on va parler de ce beau livre, donc Le Tarn-et-Garonne d'antan, l'histoire de notre beau département, dessinée par la main de Napoléon, dans les années 1850-1900, c'est de cette époque-là.
Là, c'est 1900.
Hein,
c'est une collection nationale là, qui m'a l'édition Hervé Chopin qui m'ont commandé ce texte. Le principe d'écriture, c'est qu'on doit se positionner en 1900, écrire au présent en 1900, ce qui n'empêche pas des retours en arrière dans le texte pour expliquer l'évolution des choses. On s'arrête après, je traite même pas la guerre de 14.
Ouais, ouais.
Donc l'idée, c'est d'essayer, là c'est mon côté romancier, mais en même temps extrêmement documenté, j'ai rien inventé. J'ai fait des recherches sur tout ce qu'on pouvait trouver sur la vie quotidienne à l'époque. J'ai trouvé des choses très intéressantes. Et ça, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir Gallica, qui est le site de la BNF, qui a numérisé des millions de livres qui n'existent plus, mais que vous pouvez trouver en ligne très facilement. Et là, j'ai trouvé une mine d'informations extraordinaire. Je me suis aperçu, que la vie en 1900 ressemblait à la vie d'aujourd'hui. Et je peux dire qu'il y a presque rien de commun.
Ouais.
C'est invraisemblable.
J'allais vous poser la question de vos sources, justement, parce que vous citez à des moments des journaux de l'époque. Oui. Ça, c'est justement sur ce genre
Gallica.
De... Ouais,
ça. J'ai trouvé un journal qui était apparemment... je cite un tout petit peu La Dépêche, mais je n'avais pas les fonds. Là, j'ai trouvé ce journal qui était assez drôle, parce que c'est un journal monarchiste. Et donc, évidemment, je fais attention de croiser les points de vue et de ne pas en donner qu'un, mais... Et il ne faut pas oublier qu'on est à la veille de 1905 de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État et que le climat est extrêmement tendu. On parle du climat politique aujourd'hui, c'était beaucoup plus tendu à l'époque.
Oui. Ouais. Moi, j'avais juste relevé un passage, alors si je le retrouve... qui parle de l'automobile, parce que c'est raconté par le journaliste comment il y a eu l'accident.
J'ai repris des articles de journaux, parce que d'abord le ton journalistique à l'époque, qui m'a donné le ton du livre un peu, est très différent du ton d'aujourd'hui. Il y a quelque chose d'un peu anecdotique, presque amusé. C'est assez joyeux d'ailleurs, c'est curieux, même quand il raconte des choses un peu tragiques. Et en l'occurrence, l'apparition de l'automobile, 1900, il y en a très très peu. Ça crée un attroupement quand une automobile arrive boulevard Alsace-Lorraine à Montauban. Et les premières automobiles font énormément de bruit et affolent les chevaux. Les gens, ordinairement, sur les routes qu'on croise, sont soit à pied, soit en voiture à cheval. Et les premiers accidents causés par les automobiles sont causés par l'affolement des chevaux qui renversent les voitures à cheval, et avec des accidents et des dégâts, il y a des morts.
Voilà, alors c'est dans le courrier du 2 mai 1900 que vous citez, je l'ai retrouvé. Donc vous dites « L'automobile ne fait pas l'unanimité, comme en témoigne le courrier du 2 mai 1900. Moissac, accident. Monsieur Régas, fils de Moissac, et sa jeune femme revenaient de ces derniers jours de Montauban en voiture lorsqu'à moitié chemin de la Ville-Dieu, ils aperçurent, venant sur eux, une automobile qui allait à une très grande vitesse. En entendant le bruit, le cheval s'effara et son maître, voyant qu'il ne pouvait le contenir, fit des signes désespérés au conducteur de l'automobile, mais ceux-ci ne s'arrêtèrent pas et passèrent comme l'éclair, achevant ainsi d'effaroucher le cheval. Monsieur Régas, qui d'un bond franchit la haie bordant la route, entraînant la voiture en bas du remblai. Celle-ci se brisa et Monsieur Régas, qui dans un état intéressant, tomba de 2 mètres de haut, se fracturant le bras gauche et se contusionnant le corps. Son mari, qui avait sauté au risque de se rompre le cou, a eu des contusions moins graves. Quant à l'automobile, elle avait continué sa route sans s'inquiéter de rien, redoublant même la vitesse. Elle était de couleur rouge et montée par 4 voyageurs. Ne dira-t-on pas vraiment qu'il n'y en a que pour les gens à teuf-teuf et que les autres ne comptent pas ?
Ça, c'est ça qui est drôle, c'est que la presse de l'époque, quand il redouble de vitesse, il devrait être facilement à 30 à l'heure, je pense. Donc c'est très amusant de lire les journaux de l'époque. Et c'est vrai que écrire ce genre de livre... vous oblige à aller fouiller, ouais. Et là où vous ne riez pas, parce que ça prend du temps, et moi j'adore ça, ça me passionne.
On marque une petite pause et on revient dans un instant pour continuer de parler du Tarn-et-Garonne d'antan, d'Olivier Miquel.
C'est arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit, j'étais déjà endormi, en 2 minutes je suis réveillé, je me retrouve les chaînes aux pieds. Pas le temps de respirer, ils ont fait un signe de croix. On était tous baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Aramé. Ils ont mis tous les parents et les enfants de l'autre côté, On était bien alignés comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillé. Ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués, embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Aramé, aramé. On va encore dégueuler. Ça fait des semaines comme ça qu'on est tous là enchaînés. Pas moyen de se lever, pas moyen de se laver. Paraît que c'est la félicité puisqu'on est tous baptisés, baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, sur la mer, on m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Aramé, aramé, moi la aramé.
Vous êtes bien sur CFM Radio, le mag se consacre aujourd'hui à un très bel ouvrage signé Olivier Miquel. Alors il y a 300 vieilles cartes postales de 1900 et puis vos textes, Olivier Miquel, qui racontent la vie de cette époque. Il y a plusieurs thématiques, vie agricole, vie économique, transport, grande ville, vie quotidienne et jours de fête. Et donc à chaque fois, il y a vos textes et les cartes postales. Est-ce que vous aviez vu les cartes postales ou bien pas du tout ? Est-ce que c'est un travail commun ou pas avec Michel Israël ?
L'éditeur a envoyé donc une éditrice qui était chargée, comme ils font dans toute la France, de repérer les collectionneurs et en l'occurrence de contacter Michel Israël, qui est un homme charmant qui habite Albias. Qui a prêté sa collection, qui est gigantesque. Donc, elle a fait une sélection qui était d'ailleurs au début, je l'ai rappelé assez vite, parce que il y avait un déséquilibre géographique de la proportionnalité des images avec les lieux. Et je me souviens qu'il y avait deux photos de Montech, je crois, et il y en avait une trentaine de Castelmayran. Donc j'ai fait des pointages, je lui dis, vous savez, Castelmayran, c'est très joli. D'ailleurs, ça fait la couverture. Mais,
non, mais c'était un port, non ? Peut-être à l'époque, c'est moins important aujourd'hui qu'à l'époque.
Je ne sais pas, mais il y a 300 habitants, je crois. Et donc, je lui dis, il faudrait équilibrer. Donc, j'ai participé au rééquilibrage. Et puis, le seul truc que j'ai imposé vraiment, parce qu'ensuite, il sélectionne aussi en fonction de la qualité des photos qui sont retravaillées pour être... Elles sont assez belles, les en production. J'ai juste pu imposer le café, le Raymond, à Montauban, dans une grande page, parce que j'ai dit, pour moi, c'est mon repère. C'est là où j'allais quand j'étais étudiant, et où je continue d'aller, d'ailleurs. Quand je suis là pour déjeuner en ville, je déjeune au Raymond. Et donc, j'y tenais. Et surtout, voir cette photo montre la différence de vie quotidienne, parce que vous avez quelques personnes attablées à la terrasse du Raymond, et ils sont tous très très bien habillés. Ça, c'est un détail qu'on a oublié, mais les gens de la rue étaient très très bien habillés. Tout le monde portait des chapeaux. Il y avait une sorte d'élégance, même chez les gens les plus simples, qui a évidemment disparu, comme on sait. Aujourd'hui, la décontraction a emporté ce qu'on aurait appelé autrefois le bon goût, mais...
Alors, on voit effectivement que le Raymond était était déjà là. Il y a aussi, quand vous parlez, il y a toute une série sur les grands magasins, et oui. Il y a Coup d'air qui existait aussi déjà.
D'ailleurs, qui a été refaite magnifiquement récemment. Je parle des commerces, et alors l'ouverture des... J'ai pas pu d'ailleurs mettre tout le texte, parce qu'on a des contraintes. Il y a quand même plus de 100 pages de texte, mais... j'avais trouvé les reportages sur les jours qui ont précédé l'ouverture des magasins réunis, qui était le premier grand magasin. Ça a été terrible parce qu'il y a eu ça a fait des espèces d'émeutes. Les gens n'ont pas pu avoir ce qu'ils voulaient, donc ils communiquaient à travers la presse, la direction du magasin, pour dire revenez tel jour, on sera de nouveau achalandés, parce que ça a été vraiment une révolution même dans le public. C'était extraordinaire la façon dont ils vantaient le fait qu'on aurait tout presque à prix coûtant, qu'on allait avoir ce qu'on voulait acheter devant soi, ce qui n'était pas forcément en rayon dans les autres commerces. Donc ça, la mutation se fait à ce moment-là, et ça change la vie. Tout change la vie, de toute façon, à cette époque.
On se rend compte quand même que déjà, le Tarn-et-Garonne était déjà un pays de cocagne. Hein, de toute manière, je crois que j'ai compté, vous dites, il y a 58 000 agriculteurs en Tarn-et-Garonne à l'époque.
Alors oui, si vous dites pays de cocagne comme pays d'une richesse de la terre, oui. Le Tarn-et-Garonne est d'ailleurs devenu beaucoup plus tard, c'était dans les années 70-80, le premier verger de France. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu contesté par d'autres départements, mais enfin... On est resté un département agricole, et même toute l'industrie qui se développe à ce moment-là, qui est assez considérable. Bon, je ne parle pas des chapeaux de la chapellerie à Cossa, des sept fonds, bien sûr, mais tout ça, ça vient de la terre. Hein. Au départ, c'est des chapeaux tressés. Ensuite, les matériaux qui vont rentrer dans la confection des chapeaux viennent de l'étranger, parce que ça prend des proportions considérables. Mais il y a des balais à grisoles, des papeteries à montèges.
Des minoteries un peu partout.
Oui, ah ben, n'en parlons pas. Il y a l'invention de la gaz à bluter. Toute la place Prax-Paris, qui a changé de nom, je ne sais plus.
Les Allées de l'Empereur.
Ouais, voilà. Non, les Allées de l'Empereur, c'est ce qui descend, mais le Prax-Paris, ça...
La place des Fontaines, pardon.
Elle était bordée par des bâtiments qui étaient une usine gigantesque, au bout de laquelle il y avait la halle au grain. On le voit sur une photo, d'ailleurs, du livre. Et cette usine, c'était l'usine Souleil qui faisait de la gaz à bluter. Ils avaient inventé... Il y avait beaucoup d'agriculteurs qui faisaient un peu de soie, qui avaient qui cultivaient le verre à soie. Et la gaz à bluter s'est vendue mondialement à cette époque-là. Et donc, l'usine Souleil était assez énorme et vendait dans le monde entier pour tamiser le grain. Donc ça fait partie des choses qui ont disparu. Il y avait les brasseries aussi. On faisait de la bière à Montauban.
Il y avait du fer à Moissac. Enfin, pas à Moissac, à Castelsarrasin.
Oui, il y avait à Saint... Alors oui, ça, c'était une usine de métallurgie. Ouais. Oui. Et puis, il y avait des carrières. Enfin, il y a tout un tas de choses qui n'existent plus. Et puis, il y a eu surtout la mutation qui s'est faite un petit peu avant, mais qui s'est achevée à ce moment-là, du fluvial vers le ferroviaire. Toutes les villes et la vie tournée autour des fleuves, de l'eau. Et ça a été progressivement abandonné quand le chemin de fer s'est développé, qui a changé beaucoup, beaucoup aussi.
Le Tarn-et-Garonne d'antan, voilà l'ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes en conversation à avoir avec Olivier Miquel. La première de couverture de ce très beau livre paru aux éditions Hervé Chopin. J'hésite depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est Lozerte ou est-ce que c'est Castelsagra ?
Non, c'est Castelsagra.
Ah, c'est Castelsagra. Ouais.
Oui, c'est vrai qu'on peut... C'est une ressemblance avec la halle.
Mais le Café du siècle s'appelle toujours le Café du siècle,
ah oui,
à Castelsagra. Ouais. Oui, oui. C'est le village où j'ai grandi. Donc, j'étais à l'école dans ce village. Donc, je reconnais très, très bien.
Elle est belle, cette photo, d'ailleurs. Ça, c'est l'éditeur qui décide. Moi, je suis...
Oui, et c'est là qu'on voit évidemment que la ruralité a bien changé, évidemment.
Les fêtes, là on voit la foule, et vous observez aussi que la foule, les gens sont en tenue, tout le monde s'habille, et bon, c'est un autre monde qui a disparu. Le cinéma, qui s'appelait le cinématographe, apparaissait dans les cafés, donc il y avait un café à Montauban qui diffusait à l'heure de l'apéritif, on venait, on regardait des images. C'était pas des films complets, mais les gens payaient pour ça.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en travaillant sur cet ouvrage, Olivier Miquel ?
Cette espèce de... On passe, je dirais pas du Moyen-Âge, mais vraiment la mécanisation, la révolution industrielle est en train vraiment de se parachever. Il n'y a pas encore l'électricité, ça existe que dans les villes. Le téléphone commence à arriver, mais c'est pareil, c'est sur des postes précis. Ce qui m'a le plus étonné, c'est la quantité, le nombre de... la France s'est remilitarisée après la guerre de 1870, et des casernes Montauban est devenue une ville militaire. L'armée est constituée 10% de la population active. Donc la ville vivait au rythme militaire, ça c'est très intéressant. Je raconte notamment le sergent, l'adjudant Bratière, qui est reçu en grande pompe à la mairie, parce qu'il vient de mettre au pli une tribu en Afrique, et on est en pleine colonisation. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'on va vivre l'inverse 50 ans plus tard. Et donc, ce qui m'a le plus étonné, c'est ça, c'est la vie qui est militaire, avec la fanfare du 20e qui vient jouer au kiosque des allées mortarieux, qui a été...
remonté, oui, ouais. Là, il existe à nouveau. Ouais, tout à fait.
Récemment, c'est le plus étonnant. Et le climat politique, qui est extrêmement tendu. Le fait que les catholiques et les protestants cohabitent, mais ils ne vont pas dans les mêmes cafés, par exemple. Ça, c'est, et puis, il y a ce qu'on appelle les libres penseurs, avec un maire qui s'appelle Charles Capéran, qui vient de prendre le pouvoir. Et là, c'est extrêmement tendu, et notamment, alors tendu, il y a un côté Pépone et Don Camillo, mais on ne sait pas ça. Et je sais que l'évêque organisait des processions exprès pour emmerder le maire. Donc on est sur le même climat que Don Camillo. Et c'était la vie quotidienne.
Voilà, c'est à découvrir dans Le Tarn-et-Garonne d'antan, aux éditions Hervé Chopin. Vous avez déjà fait des signatures à La Femme Renard, mais peut-être qu'il y en aura d'autres.
Oui, j'en ai fait aussi à la Leclerc, au centre Leclerc de Alma-Sud.
Ouais.
J'en ai fait à Caussade, une petite librairie à Caussade.
Ben, n'hésitez pas à nous dire quand vous en ferez d'autres. Et
alors,
on s'en
je ne sais pas, ce n'est pas prévu, là, c'est parce que c'était Noël et que, évidemment, j'ai signé beaucoup, beaucoup de livres en quelques heures. Là. Mais c'est un livre qui va faire son chemin tranquillement, comme parce que c'est un cadeau, évidemment, idéal pour des gens qui ont de la famille ici.
Merci Olivier Miquel, Le Tarn-et-Garonne d'antan. Je vous réinvite une prochaine fois pour parler de votre roman.
Eh bien, volontiers Rémi.
Merci, à bientôt.
Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr